Zjednoczenia Europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe, en direct de Berlin, Frédéric Lebel.
Willkommen in Berlin.
Bonjour à tous, émission spéciale à Berlin aujourd'hui pour les élections allemandes, des élections qui marquent un tournant pour la première puissance économique européenne, un géant de plus de 80 millions d'habitants au centre de l'Europe. Une seule certitude dans ce scrutin très ouvert où les intentions de vote n'ont jamais été aussi éclatées, la chancelière Angela Merkel quittera le pouvoir après 16 ans dès que les tractations pour une coalition gouvernementale auront abouti. En studio dans les locaux de l'Institut français de Berlin, j'ai à mes côtés Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis nos trois invités, Daniela Schwarzer, directrice Europe de l'Open Society Foundation, Klaus Petersik, historien au centre Marc Bloch, et puis Ernst Stetter, économiste, conseiller spécial de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai envie de commencer avec vous, Klaus Petersik. Elle vous a passionné, cette campagne ?
C'est une campagne importante parce que les constellations sont du jamais vu. C'est une chancelière sortante qui va partir, c'est sûr. Donc nous avons eu trois candidats. C'était intéressant parce qu'on n'a jamais eu trois candidats. Donc une campagne exceptionnelle qui est devenue de plus en plus intéressante sur la fin parce qu'on s'est acheminé vers une campagne entre deux blocs, plutôt de gauche et vert et conservateur libéral.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que les grands partis, on assiste quand même à un certain effondrement, un rééquilibrage d'une certaine manière.
C'est un phénomène qu'on rencontre partout en Europe, en France aussi. Les grands partis qui raflent large sont partout dans une crise. Ceci dit, il faut quand même le dire, et c'est ce soir très intéressant, les sociaux-démocrates remontent malgré la constellation. Et c'est très intéressant, donc nous assistons à une renaissance des sociaux-démocrates.
Pascal Thibault, on l'a vu durant cette campagne, il y a eu beaucoup de retournements dans les sondages, beaucoup de variations. Aujourd'hui, on semble se diriger vers une situation de coude à coude entre les sociaux-démocrates et les conservateurs.
Oui, effectivement, il faut se rappeler qu'il y a 18 mois encore, au moment de la pandémie, les conservateurs étaient crédités de près de 40% dans les sondages. Ce soir, ils obtiennent, d'après les premières estimations, environ 25% des voix. C'est le plus mauvais score historique des chrétiens-démocrates depuis la guerre. Le dernier en date, c'était il y a 4 ans, avec 33%. Les sociaux-démocrates, Klaus Petersik vient de le dire, enregistrent une remontée spectaculaire par rapport au sondage d'il y a encore quelques semaines, de 10 points environ. C'est surtout dû à la personnalité du candidat, le vice-chancelier Olaf Scholz, qui est un petit peu le garant de la stabilité. Et puis les Verts, au printemps aussi, ils étaient en tête des sondages. D'un seul coup, on nous parlait d'une potentielle chancelière Annalena Baerbock, la candidate des Verts. Et puis finalement, malgré un score historique ce soir, à une élection fédérale, eh bien, ils seront très certainement au pouvoir au sein d'une coalition, mais ils ne seront pas à la chancellerie.
On va écouter tout de suite les électeurs, puisque vous êtes allé prendre le pouls de ces électeurs à la sortie des bureaux de vote. On les écoute tout de suite.
Elle a bien représenté l'Allemagne. Elle a fait preuve de courage avec la sortie du nucléaire et la crise migratoire en 2015.
Elle s'en est bien sortie malgré toutes les crises qu'elle a dû gérer. On peut tous être satisfaits.
Pas que de bons souvenirs avec les réfugiés en 2015.
Elle a fait une bonne politique, c'est ok qu'elle parte. J'espère que quelqu'un d'aussi bon ou de meilleur qu'elle lui succédera.
Daniela Schwarzer, on entend ces électeurs, l'ombre d'Angela Merkel a plané vraiment de manière très forte sur toute cette campagne.
C'est tout à fait vrai, et surtout à l'étranger, on regarde même ce soir avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas s'imaginer que la chancelière ne sera plus là. Et je cite mon fils qui m'a demandé un soir, est-ce qu'un homme pourrait devenir chancelier en Allemagne ? Donc c'est vraiment toute une génération qui a grandi sous cette chancelière, et elle a misé sur la continuité, sur la stabilité, mais il faut aussi dire que l'Allemagne aujourd'hui n'est pas à 100% dans un bon état, elle a raté l'innovation et l'investissement dans ce pays.
Et les deux principaux candidats qui sont aujourd'hui en tête ont aussi surfé sur la continuité.
C'est vrai, Olaf Scholz aussi. Bon, le ministre des Finances, le vice-chancelier qui a été là pendant notamment la crise du Covid, c'est quelqu'un de très respecté, très connu. Et la campagne, le SPD a pu vraiment gagner 10 points de pourcentage ces derniers mois, depuis cet été. Et c'est notamment parce qu'ils ont entièrement concentré toute la campagne sur la personnalité de Olaf Scholz, qui inspire beaucoup de confiance.
Et qui pourrait être, selon une de ses affiches de campagne, la prochaine chancelière.
Oui.
Je vous propose d'aller tout de suite rejoindre Nathalie Versieux, qui se retrouve dans une antenne berlinoise du Parti conservateur. Nathalie, quelle est l'ambiance? Est-ce qu'on est un petit peu déçu par les scores de la CDU? Nathalie Versieux?
Allô? Oui? Vous m'entendez?
Oui, Nathalie, est-ce qu'on est déçu par les scores de la CDU?
Oui, alors ici à 18h, c'était vraiment un silence de mort au moment de l'annonce des résultats. Je me trouve dans un restaurant où la CDU berlinoise était venue avec l'espoir de fêter la victoire. C'est évidemment pour l'instant pas le cas. Donc un grand silence à 18h, une consternation mêlée d'un certain soulagement. Le fait que la chute de la CDU ne soit pas encore plus prononcée, pas si dramatique que ce qui était redouté, me dit ici un des militants. Le seul moment de satisfaction, c'est quand il est apparu qu'une majorité rouge-rouge-verte, comme on appelle ici la majorité du SPD avec les Verts et les néo-communistes de Die Linke, ne serait sans doute pas possible. À ce moment, il y a eu une véritable jubilation dans la salle. Et donc, on entend beaucoup de commentaires assez aigris quand même. On aura beaucoup de travail devant nous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce sont les différents types de commentaires que j'ai entendus ici. Ou bien Angela Merkel aurait dû s'engager beaucoup plus tôt dans la campagne. On se souvient que la chancelière avait dit qu'elle n'interviendrait pas dans la campagne électorale. Et donc, elle a fini par le faire un peu sous la contrainte face à la chute de son parti dans les sondages. Les supporters de la CDU se détournent complètement de la télévision. Tout le monde s'est précipité sur le buffet, de la choucroute, de la bière, histoire de se changer un peu les idées. Il faut voir que l'incertitude est encore complètement totale ce soir. Ici, les militants à qui j'ai pu parler n'excluent pas que Armin Laschet puisse encore former le prochain gouvernement. Et il n'y a pas non plus, ce qui m'a un peu surpris, j'ai pas du tout entendu de demande de démission à l'attention de Armin Laschet de la part des militants berlinois qui sont
Merci Nathalie Versieux. Pascal Thibault, je me retourne vers vous. La chancelière est intervenue très tard pour soutenir le candidat conservateur.
Oui, en fait, Angela Merkel voulait rester en dehors de sa succession. Ça a déjà été le cas lorsqu'il s'est agi de désigner le président du parti, puis le candidat des conservateurs pour la chancellerie. Et durant la campagne, elle devait également rester assez discrète. Finalement, elle a été sollicitée, elle a accepté de participer à différents meetings pour sauver en quelque sorte le soldat Laschet, le candidat de son parti. On l'a vu tout à l'heure à ses côtés, au siège de la CDU. On lui a rendu hommage, c'est ce qu'a fait Armin Laschet. Donc elle voulait garder sa posture en quelque sorte présidentielle qu'elle a très volontiers eue durant les 16 dernières années, mais elle a fallu qu'elle s'investisse avec un succès mitigé.
Daniela Schwarzer, vous le disiez, on a beaucoup reproché à la chancelière de ne pas avoir fait les réformes d'envergure qui s'imposaient. Klaus Peterzig, est-ce que c'est un petit peu l'image qui reste de la chancelière, une bonne gestionnaire, mais pas une réformatrice?
On peut le dire. Elle a été très très grande, très bonne, je crois, dans la gestion des crises. Mais on peut dire, bon, un grand historien, Timothy Garton Ash l'a dit, elle ne sera pas critiquée sur ce qu'elle a fait. Elle sera probablement critiquée sur ce qu'elle n'a pas fait. C'est-à-dire, c'est une chancelière qui a très bien hiérarchisé les problèmes, mais elle a peut-être eu pas assez de vision pour l'avenir de l'Allemagne.
Einstetter, quelles seraient les réformes que la chancelière aurait dû faire?
Oui, mais tout d'abord, j'aimerais faire un petit commentaire aussi de ce qu'on a discuté sur la campagne. Je dois dire aussi, concernant les SPD, Daniela Schwarzer a bien expliqué, mais il y a une chose qui n'a été pas évoquée. Il a réussi, le candidat, de faire l'unité au sein du SPD pour faire la campagne. Ce que Armin Laschet, de la CDU-CSU, n'a pas pu faire. Il y avait un certain désordre au sein de l'Union chrétienne, un désordre qui était une sorte de lutte politique-politicienne qu'on est, etc. Donc ça c'est clair. Concernant la deuxième, concernant votre question...
Angela Merkel.
Voilà, donc, cette semaine avant les élections, si vous avez regardé la presse étrangère, The Economist parlait « The mess she left behind », c'est-à-dire la messe qu'elle a laissée derrière.
Le désordre.
Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas été faites. Et c'est tout d'abord sur l'économie. Il y a la digitalisation de l'économie allemande qui n'a pas avancé. Il y a les investissements des infrastructures qui n'ont pas été faites, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses concernant l'économie allemande que Angela Merkel ne pourrait pas réaliser dans cette coalition.
Mmh. Avant de parler du climat un petit peu plus tard, j'ai envie de faire un peu un bilan. S'il y avait un fait marquant à retenir d'Angela Merkel, ce serait quoi pour vous, Klaus Petersik?
C'est une phrase qui va surnager. Probablement dans 50 ans, on va dire le « wir schaffen das ». On va pouvoir le faire. Nous allons réussir. C'est ce qui surplanera, je crois, de Angela Merkel.
C'était l'accueil des réfugiés en 2015.
L'accueil des réfugiés en 2015.
Pour vous, Daniela Schwarzer?
Alors, un souvenir qu'on va tenir de sa période au pouvoir, c'est la sortie du nucléaire, sans coordination avec les Européens, sans préparation du pays. Je ne veux pas dire que c'est un succès, mais c'était une décision assez radicale.
Forte.
Et je pense que les gens vont s'en souvenir parce qu'on a aujourd'hui encore à travailler dessus pour le mettre en œuvre.
Et pour vous, Ernst Stetter?
Les imprimés. Comment, dans la crise sanitaire qu'elle a pu réaliser ensemble avec Emmanuel Macron, et c'était un premier pas.
La coordination européenne, on s'en date ensemble.
Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ça qui restera concernant son image européenne à l'ordre du jour dans l'histoire.
Et ce qui a peut-être émergé durant cette campagne, et ce qui n'était pas le cas en Allemagne durant les années précédentes, c'est une personnalisation assez forte de cette campagne. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ressenti?
Oui.
Peut-être Daniela Schwarzer?
Oui, très fortement ressenti. On s'est allé jusqu'au geste. Alors, la chancelière a un geste particulier. Elle tient ses mains devant son ventre d'une certaine manière. Et Scholz l'a fait aussi pour rigoler sur une affiche de campagne. Et le slogan était « Je peux être chancelière ». Donc, le féminin du mot. Alors, c'est assez drôle de voir comment la chancelière a influencé la campagne sans se représenter à sa propre réélection. Et ensuite, la personnalisation de Olaf Scholz, le candidat à la chancellerie des sociaux-démocrates, il était vraiment, d'une certaine manière, détaché du leadership du parti, qui s'est vraiment retiré de la scène. Et c'était toujours lui, avec des affiches, son visage en noir et blanc, vraiment une manière de le présenter qui donnait l'aura du pouvoir.
Klaus Petersik.
Oui, c'était frappant durant très longtemps, pendant la campagne, cette personnalisation, et on a pu penser que nous sommes dans une république à élection présidentielle. Nous ne le sommes pas, et l'électeur allemand va se réveiller durement, parce que ce qui compte maintenant, c'est le nombre des mandats. Et nous sommes là dans un coude à coude, 402 versus 403.
Oui, il faut le rappeler, les Allemands votent ce soir pour leurs députés, députés qui éliront ensuite le chancelier, sans doute pas la chancelière, on aura le temps d'en parler. La question...
Est-ce qu'on ne doit pas aller à longue à une réforme du système électoral en Allemagne? Parce que cette personnalisation donne un peu l'image que vous choisissez le chancelier, ce qui n'est pas vrai, ce que vous avez dit. Et je crois beaucoup de citoyennes et citoyens ne comprennent même pas le système électoral en Allemagne, qui est très,
extrêmement
très compliqué.
On ne viendra pas, on ne va pas revenir dans tous les détails. On va parler de la question du réchauffement climatique. climatique qui a été au cœur de cette campagne et les terribles inondations de l'été dernier qui ont fait 180 morts en Allemagne n'ont fait que renforcer l'intérêt des électeurs pour cette problématique. Les Verts ont obtenu 8,6% des voix lors des dernières législatives. Ils sont aujourd'hui, selon les derniers résultats, à peu près au double, vers 15. Des Verts qui surfent sur un équilibre difficile entre le réalisme et les attentes des militants. On écoute l'extrait de ce reportage de Déborah Berlioz.
Malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes défilent dans les rues de Berlin ce mardi d'août. Ils ont répondu à l'appel d'Extinction Rebellion, un mouvement de désobéissance civile écologiste. Au micro, une activiste explique que le dérèglement climatique se fait déjà sentir en Allemagne. Elle rappelle par exemple les inondations qui ont dévasté l'ouest du pays en juillet dernier.
Nous sommes en pleine crise et elle va demander toutes nos forces pour la surmonter. Mais nos gouvernements ne font rien, ils nous laissent tomber. Donc aujourd'hui, nous leur donnons un carton rouge.
Ces critiques, Lisa Paus les a déjà entendues. Députée écologiste au Bundestag, elle se représente cette année. Ce samedi matin, elle fait campagne devant un magasin bio de l'ouest de Berlin. Et la politicienne voit bien que l'écologie intéresse davantage les citoyens que lors des dernières législatives en 2017.
Et certains sujets qui étaient des tabous ont absolument une grande importance dans la campagne, comme la transformation de la mobilité. Les gens se rendent compte que le modèle basé sur la voiture à essence n'a plus d'avenir. Donc maintenant, on entend davantage de gens qui se demandent comment changer de modèle, plutôt que des gens qui nous disent « les Verts sont cinglés, je veux conduire ma voiture ».
Pour autant, les Verts restent prudent. Selon Lisa Paus, le parti écologiste ne peut pas se permettre d'avoir des revendications trop révolutionnaires.
C'est toujours un dilemme. Nous avons besoin d'une majorité pour imposer notre politique. Ça ne sert à rien si nous avons des propositions très radicales. Nous devons convaincre l'ensemble de la société.
Parler des croissances est donc exclu. Idem pour les propositions trop radicales, comme une augmentation drastique du prix de la tonne de CO2. En même temps, cela fait longtemps que le parti a entamé sa migration vers le centre de l'échiquier politique. Et aujourd'hui, on retrouve des ministres écologistes dans 11 gouvernements locaux sur 16.
Pascal Thibault, au vu de l'importance de la thématique écologique pendant cette campagne, pourquoi les Verts n'ont pas fait mieux ?
Alors, je crois qu'il faut un peu relativiser. Certes, ils ont fait moins bien que les sondages du printemps où sans doute on plébiscitait la nouvelle venue, Annalena Baerbock, désignée comme candidate du parti. Il s'agissait sans doute.
On l'imaginait déjà chancelière.
Voilà. Il s'agissait, à mon avis, peut-être plus de sondages de popularité, un certain hype, comme on dit en anglais. Je crois que, comme on l'a souvent vu dans le passé, les Verts atteignent parfois des sommets, ou en tout cas de bons résultats dans les sondages, et se dégonflent un peu comme un soufflet à l'arrivée. Ceci dit, il faut aussi comparer d'où on partait et où on arrive. Ils avaient 8,9% en 2019, ils en ont environ 15 ce soir. Donc c'est tout de même un succès, le meilleur succès historique de ce parti à des élections. Il y a différentes explications pour expliquer ce recul par rapport au printemps. Il y a sans doute eu des erreurs liées commises par la candidate. On ne va pas les repasser en revue. Sans doute aussi son manque de crédibilité, c'est-à-dire que hormis le côté nouveau, sa fraîcheur, c'est une quadragénaire plus jeune de 20 ans que les deux autres candidats à la chancellerie, les gens se sont peut-être demandé est-ce que malgré tout elle a l'envergure sans aucune expérience ministérielle, même au niveau régional, pour gouverner le premier pays européen.
Et pourtant, on peut dire, Klaus Peterzig, qu'aujourd'hui, les Verts, c'est vraiment un parti de gouvernement. Ils sont dans 11 Länder sur 16.
Pas seulement cela, ils sont à la tête de l'un des États fédéraux le plus important en Allemagne, le sud-ouest, le Bade-Württemberg, où il y a les firmes de Bosch mondialement connues, Mercedes, Porsche, etc., etc. Donc, ils ont beaucoup d'expérience et ils vont être très probablement au gouvernement.
Oui, et puis ils savent, vous l'avez dit dans le Bade-Württemberg, ils savent avoir de bonnes relations avec le milieu du business. Hein.
Absolument. Le Parti des Verts est un conglomérat de différentes tendances. Il y a des gauchistes, mais il y a aussi des gens pour qui, des anciens conservateurs, qui maintenant veulent protéger leur nature locale.
Oui. Sur la question de l'écologie, les Verts, bien sûr, sont le parti qui est le plus en avance. Est-ce que c'est socialement acceptable pour les Allemands, cette sortie, par exemple, du charbon en 2030 qui pourrait impliquer une hausse du prix de l'énergie, par exemple ?
Tout d'abord, les Verts ont eu un grand soutien, encore ce vendredi, par les jeunes, dans les rues de Berlin, dans plein d'autres villes en Allemagne.
Les fameuses grandes manifestations.
Voilà ça, et les manifestations étaient sincèrement grandes hein, pour l'Allemagne, et qui ne manifestent pas autant que la France quand même. Donc c'était vraiment un soutien, et ça démontre que notamment la jeune génération soutient parfaitement. Ensuite, je dirais qu'aujourd'hui, toute la question de la soutenabilité écologique, du climat, c'est vraiment du mainstream en Allemagne. Donc, tous les partis en parlent. Et c'est ça l'effet, à la fois, de la montée des Verts, mais aussi de ces manifestations Fridays for Future, qui ont fait en sorte que, notamment, le candidat des chrétiens-démocrates, ces dernières semaines, il a parlé tout le temps de la protection du climat. Alors, vous avez posé la question de l'acceptabilité sociale. Il y a évidemment des craintes, et non seulement en Allemagne, que la transition énergétique, ça va imposer des coûts, notamment à ceux qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter une nouvelle voiture, pour se payer des longs trajets en train, etc. Et donc, il y a cette question. À mon avis, elle est gérable en Allemagne. Et les Verts ont à la fois mis l'accent sur la protection du climat et en même temps sur les politiques sociales. Parfois, quand j'entendais Annalena Baerbock dans des débats télévisés, j'avais l'impression que j'entends une social-démocrate. Parce qu'elle parlait tellement de la politique sociale, du soutien qu'il fallait donner aux familles, etc. Et je pense que c'est important. N'importe qui est au gouvernement, la transition énergétique peut avoir des coûts sociaux très importants. Alors il faut savoir les gérer, sinon on aura une résistance contre cette politique qui est tellement importante. Ça jouera en Allemagne, mais d'autant plus en Europe, où il y a des pays, notamment à l'est de l'Allemagne, qui ne soutiennent pas ces objectifs parce qu'ils craignent les coûts de sortir du charbon, etc.
Mais est-ce que
Hans Stetter, justement, est-ce que cette transition écologique, elle est soutenable pour l'économie allemande?
Bah, je suis bien d'accord que c'est soutenable, mais je me demande aussi si vraiment les Verts ont réussi, et c'est pour cela peut-être une raison aussi pourquoi ils n'ont pas réussi à serrer le premier parti, de convaincre le citoyen qu'ils peuvent joindre le social avec le changement climatique. Et comme vous dites bien, Daniela, c'est-à-dire Annalena Baerbock a toujours parlé du social, du changement climatique, mais est-ce que ça a été vraiment perçu par les électeurs que c'est quelque chose qui est bien ancré dans le Parti du Vert. Et c'est pour cela aussi, je crois, le SPD, le social-démocrate, ont pu augmenter leur soutien auprès de l'électorat parce qu'ils ont mis aussi l'accent sur le salaire minimum par heure qui est à 12 euros.
Oui. Et la question de la décarbonation de l'économie, ça sera le grand chantier des 10 prochaines années.
Évidemment, c'est le grand chantier. Le grand chantier, c'est la transition de l'industrie allemande, la transition du business model allemand qui est basé actuellement sur l'automobile et qui est basé sur les exportations et les importations. Si vous prenez les chiffres, et en tant qu'économiste, parfois je dois aussi citer des chiffres, vous avez en Allemagne un rapport qui a été publié par la Banque mondiale, un rapport pour le produit intérieur brut, de 87% qui est lié à l'export et à l'importation. Vous avez aux États-Unis simplement 27%. Et vous avez en France et au Japon à peu près 40%. Donc c'est ça l'enjeu de l'économie allemande.
Klaus Peterson.
Oui, je voudrais ajouter un point important. Je crois que ce qu'on observe en France, aux États-Unis, c'est-à-dire un clivage entre les villes et la campagne, on ne veut pas l'avoir, on essaie au maximum de l'éviter en Allemagne. On va voir si ça réussit, ça pourrait réussir dans une coalition verte social-démocrate. On voit très bien que les Verts sont plus forts dans les villes et moins forts dans les campagnes. Et voilà, on va analyser peut-être un peu plus proche les... Voilà.
Justement, on va aller faire un tour dans la section berlinoise du Parti Vert avec Oriane Verdier. Oriane, les Verts se voient-ils au gouvernement ?
Alors oui, il se voit au gouvernement, mais il est vrai que l'ambiance est un peu mitigée. Comme vous l'avez dit, en début de campagne, les Verts s'attendaient à bien mieux. Ils ont tout de même fait leur meilleur score, hein, avec près de 15%. Donc aujourd'hui, ils espèrent être inclus dans la coalition qui devrait se former dans les semaines à venir, qu'elle soit menée par la CDU ou par le SPD. Les militants espèrent bien sûr que leur parti y sera intégré, particulièrement pour faire entendre leur voix sur leur dossier phare. par les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Alors ici, l'excitation est surtout au niveau local, puisque les Verts ont tout de même fait plus de 8% par rapport aux élections de 2017. Ils sont pour l'instant en tête. Ils espèrent donc remporter le Land de Berlin. Et on me dit ici que la nuit sera longue parce que le SPD est au coude à coude avec les Verts. On verra ça donc dans les heures à venir.
Merci Oriane Verdier. L'économie.
Carrefour de l'Europe.
En direct de Berlin.
Frédéric Lebel.
L'économie et le budget sont peut-être les vraies fractures qui ont pu être observées durant cette campagne entre d'un côté des conservateurs pour l'équilibre budgétaire et de l'autre des sociaux-démocrates et des Verts qui plaident pour des investissements pour soutenir la croissance. Daniela Schwarzer, le choix ou pas d'un nouveau modèle économique va se décider ce soir?
Ça va pas se décider ce soir parce qu'on a des semaines, peut-être des mois de négociations devant nous.
En tout cas, c'est l'enjeu du prochain gouvernement.
Oui, alors en fait, il y a beaucoup de facteurs structurels qui vont rester et qui ne se changera pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'en matière de politique budgétaire, les sociodémocrates et les Verts ont mis l'accent surtout sur l'investissement. Mais il faut bien se rappeler que nous, on a une règle constitutionnelle qui s'appelle le frein à la dette. Et c'est les sociodémocrates et la CDU qui les ont mis dans notre constitution. Donc il y a vraiment un cadre très serré qui est là. Et si on veut le changer, il faut les deux tiers des députés au Bundestag. Et les sociodémocrates ne sont pas d'une culture de dépenses exagérées. Alors, on n'a pas vu Scholz, qui est le ministre des Finances de ces 4 dernières années, qui a quand même maîtrisé avec beaucoup de prudence les dépenses qui allaient être nécessaires à cause de la crise du Covid. Le discours n'a pas complètement changé, que maintenant c'est un nouveau air. C'est une situation exceptionnelle. Après, il faut de l'investissement pour maîtriser la transition à la fois écologique et digitale de l'Allemagne. Et pour ça, il faut de l'investissement, mais je ne vois pas vraiment un changement culturel complet de la pensée économique allemande.
C'est l'Allemagne de demain que les électeurs choisissent ce soir. Et parmi eux, des jeunes qui n'ont connu qu'Angela Merkel comme chancelière. On les appelle la génération Merkel. On les écoute dans ce reportage de Déborah Berlioz.
Les nuages sont menaçants ce dimanche matin à Berlin. Malgré tout, une fête de quartier bat son plein dans le centre de la capitale. Pendant que les familles se pressent entre les animations pour enfants et le stand de grillade, différentes associations sportives tentent d'attirer de nouvelles recrues. Nils est venu présenter son club de basket. Âgé de 21 ans, il n'avait que 5 ans quand Angela Merkel est arrivée au pouvoir.
Pour moi, elle a toujours été celle qui était à la tête du gouvernement, qui arrivait à tout gérer sans gros incidents.
Nils aurait sans doute voté pour elle aux dernières élections en 2017 s'il avait été majeur. Pourtant, il estime qu'elle aurait pu faire davantage pour sa génération.
Il n'y a pas eu assez d'innovation, d'avancée sur le numérique afin de permettre aux gens d'avoir partout une bonne connexion Internet ou une bonne réception sur son mobile. Et c'est justement ce dont la jeunesse a besoin. Si vous voyagez en Europe, que ce soit en Grèce ou en Bulgarie, vous allez recevoir de la 4G partout. Mais en Allemagne, en plein centre de Berlin, parfois vous captez mal et vous devez rappeler plus tard.
Le retard de l'Allemagne est évident quand on regarde les chiffres sur la fibre optique. Selon l'OCDE, seulement 5,4% des connexions Internet fixes en Allemagne se font via fibre optique. Cette part monte à 33,7% en France et 30,6% en moyenne au sein de l'OCDE.
Toujours l'extraordinaire réussite économique allemande, mais on n'a pas assez investi dans le futur, il y a encore des failles.
Il y a des failles, on n'a pas investi dans le futur, on n'a pas investi dans les infrastructures de techniques nouvelles, on n'a pas investi aussi dans des infrastructures concernant l'éducation, concernant le développement et la recherche. Donc là, il y a quand même un changement qui s'annonce. Et ce changement qui s'annonce, c'est dû au fait que, je crois, tous les partis ont compris qu'il faut faire quelque chose, que ça ne peut pas rester comme ça. Les uns disent il faut débureaucratiser. c'est-à-dire laisser ça un peu au marché. Les autres disent, et ça c'est la question des Verts, mais aussi des sociodémocrates, il faut redéfinir d'une certaine manière le rôle de l'État dans l'économie. L'État doit avoir plus de poids concernant les décisions, les grandes décisions infrastructurelles des nouvelles technologies. Ça, c'est l'enjeu et le défi, je dois dire, du prochain gouvernement qui est en train de se
c'est
former.
C'est un petit peu une remise en cause du fédéralisme, d'une certaine manière, du pouvoir des Länders face à l'État central?
Non, je lis pas ça trop au fédéralisme, je lis ça plutôt aussi à l'Europe. Je lis ça à la construction européenne concernant l'économie et concernant la politique économique. Et là, il faut regarder un peu ce qui se passait pendant la crise sanitaire, ce que je disais tout à l'heure, avec les emprunts communs. Est-ce que le nouveau gouvernement qui va se former serait apte à faire la continuation de cette nouvelle politique qui s'est pu installer au sein de l'Union européenne? Il faut dire aussi que la présidente de la Commission européenne est issue du Parti conservateur de l'Allemagne. Ursula von der Leyen était la ministre de Défense du gouvernement Angela Merkel. Il faut dire aussi que le Olaf Scholz, qui était le vice-chancelier du dernier gouvernement, était social-démocrate. Donc il y a une certaine possibilité.
Pour résumer, est-ce qu'on va desserrer un peu le cordon de la bourse pour investir?
Voilà.
Klaus Peter Sieg.
Oui, j'ai voulu annoter que si on regarde les résultats des élections, on se rend compte que les jeunes électeurs, donc qui seront là encore dans 40 ans, ils votent pour les Verts d'un part ou pour les libéraux de l'autre. Ça, c'est une surreprésentationnalité chez ces deux partis. Et ce sont des partis qui veulent du nouveau, qui veulent des innovations. Et je pense qu'on va aller dans cette direction.
Un des marqueurs de cette élection, c'était aussi le social, avec les sociodémocrates qui annoncent un revenu minimum de 12 euros, des taxes sur les hauts revenus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une inégalité sociale en Allemagne qu'il faut corriger, Daniela Schwarzer?
Il y a certainement une grande inégalité, notamment la pauvreté d'enfants qui fait beaucoup de débats. On l'a vu aussi lors de la crise du Covid, quand les écoles étaient fermées. À quel degré beaucoup de familles ne pouvaient pas soutenir leurs enfants et pouvaient même pas acheter les outils informatiques qu'il fallait, donc des ordinateurs ou des iPads ou autre chose. Et alors aujourd'hui c'est un grand sujet. C'est un sujet entre Est et Ouest. C'est un sujet entre villes et des régions rurales. Et à mon avis ce sera une très très grande question de cohésion sociale, notamment les jeunes, l'entrée dans la vie professionnelle, mais surtout aussi l'enfance.
Oui, et peut-être aussi, on peut dire que l'Allemagne qui avait bénéficié des réformes de Hartz IV, de Gerhard Schröder, est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'elle revoie ces réformes, Klaus Peter Sieg?
Oui, elle est déjà largement en train de le faire, n'est-ce pas, depuis le dernier gouvernement, même avant. Donc on est déjà dans un nouveau présent et on sera davantage dans un nouvel avenir. Mais il y a des choses comme par exemple l'inégalité dans la population allemande. On ne peut pas accepter que 10% de la population ont 56% de la richesse dans toute l'Allemagne. L'Allemagne est la nation la plus inégale dans toute l'Europe. Hein. Le coefficient Gini est le plus élevé. Ce sont des choses auxquelles on va devoir s'attaquer et on peut peut-être interpréter le résultat électoral de ce soir, c'est-à-dire une nouvelle dynamique pour les Verts et pour les sociodémocrates, comme aussi un signe que cette société allemande veut aller vers plus de solidarité parce qu'elle veut vivre dans la paix sociale.
RFI à Berlin. 96.7 FM.
On va parler politique internationale et Europe. Angela Merkel a incarné l'Europe aux yeux du monde, de Joe Biden à Vladimir Poutine. Qui va représenter l'Europe aujourd'hui, Daniela Schwarzer?
Alors, elle laisse un grand trou au Conseil européen. Elle était la dirigeante du plus grand pays, et ceci pendant 16 ans. Et donc, elle avait un poids politique énorme, notamment lors des négociations difficiles. et aussi vers l'extérieur. Elle a choisi de se positionner comme la gardienne de l'Ouest politique, notamment quand Donald Trump était président des États-Unis. Et elle l'a fait avec beaucoup d'engagement, on doit dire. Et aujourd'hui, la question est notamment où en est le président français Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va être le leader de l'Europe? À mon avis, la personne qui succédera à la chancelière Merkel aura un rôle très très important à jouer au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'échelle mondiale. Et c'est pour cela que la campagne électorale, à certains moments, était très frustrante, parce que on ne parlait pas du tout de la politique internationale, de la responsabilité internationale et européenne du futur gouvernement. Et c'est vraiment ces derniers jours que ça a changé, avec le dernier débat télévisé où tous les candidats de tous les partis étaient là, mais aussi Armin Laschet, le candidat des chrétiens démocrates, il a commencé à faire des tribunes qui ont souligné l'importance, parce qu'il faut pas oublier, l'Allemagne prendra la présidence du G7 le 1er janvier, la France aura la présidence française de l'Union européenne au même moment, et s'il n'y a pas une dynamique franco-allemande qui se construit rapidement, ce ne sera que pendant la deuxième moitié de l'année 2022 que ça se fera. Après les élections françaises, après les élections présidentielles et ensuite les élections parlementaires. Et ça, c'est quand même une très longue pause. C'est pour cela que c'est très important que le franco-allemand se mette en marche le plus rapidement que possible.
Oui, parce qu'il y a un risque, on a même parlé d'hibernation pendant plusieurs mois lors des tractations pour une coalition. On peut peut-être faire un petit bilan avec vous, Pascal Thibault, Merkel et l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Europe ?
Alors, Merkel, comme en Allemagne, elle a géré beaucoup de crises internes, mais aussi beaucoup de crises en Europe. On pourrait refaire la liste, mais on n'a peut-être pas le temps. Elle a fait preuve d'un talent de négociatrice certaine. Elle a été une mécanicienne qui, lorsque, comme dans une voiture, il y a une pièce qui est défectueuse, eh bien, elle l'a réparée. Mais elle n'a jamais eu de vision d'avenir. Je ne sais pas à quand remontent les dernières propositions pour l'Europe venant de l'Allemagne. Et on a particulièrement vu cela avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, avec des propositions incessantes, pourrait-on dire, sur l'Europe, auxquelles on a répondu ici dans un premier temps par un long silence. Parce que à l'époque déjà, on a été très occupé en 2017-18 par la constitution laborieuse d'un gouvernement, et puis après parce qu'on n'était pas forcément emballé au sein du camp conservateur. Les choses ont évolué après. À l'active d'Angela Merkel pour l'Europe, on peut sans doute souligner, Ernst Stetter l'a déjà fait,
la mutualisation de la dette,
le fait qu'on a brisé un tabou. On souligne chez les conservateurs que ça sera un cas unique, à savoir accepter une mutualisation des dettes avec le plan de relance de l'année dernière. Et puis, le fait qu'elle se soit engagée précédemment lors de la crise de la zone euro pour que la Grèce en reste membre.
On va parler politique internationale. On a beaucoup dit qu'en Allemagne, sa politique internationale est étroitement liée à ses intérêts économiques, notamment avec la Chine, la Russie. C'est un équilibre difficile à tenir. Faire du business tout en dénonçant les droits de l'homme, ça va pouvoir perdurer cet équilibre, Ernst Stetter?
On verra qui sera le prochain chancelier. Mais néanmoins, il y a le grand enjeu au niveau international, Daniela Schwarz a déjà souligné, mais il y a aussi l'autre chose, c'est la crise du multilatéralisme en tant que telle qui est là sur le globe. La Chine, la Russie, les États-Unis, ce qui se passait maintenant entre la France et les États-Unis. Donc ça montre bien qu'il y a une certaine faiblesse qui s'est installée au niveau international. Et le dernier gouvernement allemand n'a pas pu avancer les dossiers, les différents dossiers sur cet échelon. Angela Merkel a fait l'accent sur l'économie, c'est clair, des bonnes relations avec la Chine, clair, une relation assez correct avec la Russie pour avoir l'approvisionnement du gaz de la Russie, aussi avec le fameux Nord Stream, et aussi, bien sûr, le transatlantisme. Mais c'est pas simplement ça qui est l'international. L'international, c'est aussi à faire impliquer les continents africains, le continent latino-américain et les autres pays en Asie.
Et puis il y a la question de la défense qui va revenir très vite sur le devant de la scène, notamment avec la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que l'Allemagne et surtout les Allemands sont prêts à s'engager plus sur des questions de défense à l'international, Daniela Schwarzer?
Même sans la présidence française de l'Union européenne, les Allemands sont obligés de s'engager plus en matière de défense parce qu'on a des objectifs très clairs de la part de l'OTAN. Donc notre alliance transatlantique de défense, où tous les pays membres sont invités à dépenser 2% du PIB national en défense. Et on a vu ces dernières années que la contribution allemande a augmenté. On n'est pas encore là où on devrait être. Et ça va être un sujet intéressant au sein de la coalition, parce qu'il y a cette obligation internationale qui, normalement, n'est pas négociable. Mais ensuite, on a vraiment des accents différents entre les différents partis qui ont une dimension défense, notamment la manière dont on réfléchit à la défense européenne. Et c'est là où le franco-allemand devient très intéressant. Les Allemands, pendant les deux dernières années, notamment en réaction à Donald Trump, ont poussé avec d'autres Européens vers une institutionnalisation de la coopération de défense au sein de l'Union européenne avec ses 27 membres. Ça s'appelle PESCO et c'est une coopération structurelle. Les Français ont beaucoup plus envie de pouvoir agir vite. La construction des institutions intéresse beaucoup moins. Et donc, à mon avis, pendant les premiers mois de 2022, sous la présidence française, on va voir que Emmanuel Macron va pousser notamment la capacité d'action, la mise en place des groupes, en fait, des capacités militaires pour pouvoir agir rapidement au moment de la crise. Et là, forcément, on va travailler beaucoup plus en petits groupes. Et ça va être un débat intéressant entre Français et Allemands. Les Allemands aiment toujours intégrer tout le monde. Les Français aiment plutôt agir vite avec des petits groupes.
Carrefour de l'Europe.
En direct de Berlin.
Frédéric Lebel.
Retour dans une des antennes berlinoises du Parti social-démocrate. Avec vous, Anastasia Bescuo, bonsoir. On peut dire qu'il y a un optimisme mesuré?
Effectivement, l'ambiance varie, elle se réchauffe puis retombe un peu à mesure que les résultats s'affinent. Après s'être creusé en faveur du SPD, l'écart avec la CDU s'est un peu resserré il y a quelques minutes. La Fédération berlinoise de la SPD a organisé ici sa soirée électorale dans une ancienne gare qui est transformée en lieu d'exposition. Tout à l'heure, des applaudissements nourris ont accueilli l'apparition à l'écran d'Olaf Scholz en direct du siège du parti à la Willy Brandt House. Le candidat du SPD a revendiquer la victoire dans cette élection avant de lancer. Les électeurs veulent que le chancelier s'appelle Olaf Scholz. Une déclaration, bien sûr, suivie ici de longs applaudissements. Militants et sympathisants, s'ils restent encore prudents sur l'issue de cette élection, se disent d'ores et déjà satisfaits du résultat. Ils soulignent que le SPD est parti de loin. C'est ce que dit Eric Haase, élu municipal de l'arrondissement du centre de Berlin.
Vu les sondages il y a 3 ou 4 mois où on était à 15%, donc là on a gagné 10% durant la campagne, c'est phénoménal. C'est un bon jour pour la social-démocratie en général. Même si le prochain chancelier ne sera pas de notre parti, c'est quand même un très très bon jour parce que vous voyez que ces dernières années, on a souvent prédit la fin de la social-démocratie. Mais non, en fait c'est un grand jour pour nous.
Vous l'avez entendu, les militants ne sont pas tous convaincus qu'Olaf Scholz pourra diriger le prochain gouvernement. Comme il l'affirme, il reste très prudent. Il s'attend à de longues négociations avec d'autres partenaires potentiels, notamment les Verts. Le candidat du SPD a résumé les choses dans une interview à l'ARD, la chaîne allemande, en lançant « c'est un grand succès, mais la soirée s'annonce longue, c'est certain ».
Merci Anastasia Bécchio. En studio, on retrouve bien sûr Pascal Thibault, le correspondant de RFI en Allemagne. Est-ce qu'on a des indications un petit peu plus précises sur ce qui se dessine pour le prochain gouvernement ?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un coude à coude actuellement entre les deux principaux partis, les chrétiens et les sociologues, avec apparemment un léger avantage à la CDU-CSU, donc les conservateurs. Un léger avantage pour le SPD, excusez-moi. C'est donc effectivement psychologiquement et politiquement, il y a peut-être un avantage pour le SPD dans la mesure où ils arriveraient en tête et ils progressent alors que la CDU-CSU subit un échec historique. Les deux candidats à la chancellerie, Olaf Scholz pour le SPD et Armin Laschet pour la CDU-CSU, ont revendiqué en quelque sorte la chancellerie. Comme ils ont tous les deux des options, ils se pourrait tout à fait que des négociations successives, voire concomitantes, se déroulent entre ces deux partis et d'autres, puisqu'il faudra construire sans doute une coalition à trois pour former le futur gouvernement allemand.
Oui, Klaus Peter Sick, ça peut durer des mois.
Absolument, ça peut durer des mois. Ça a duré, la dernière fois, ça a duré 6 mois presque. Donc, on craint, peut-être en France, surtout, une sorte de vide, mais on peut aussi l'utiliser. Il y a les deux côtés, peut-être un certain optimisme pour les Français, mais aussi une certaine crainte que l'Allemagne ne remplisse pas assez rapidement ce vide. Je voudrais dire deux choses sur le gouvernement probable à venir. En tout cas, les Verts, ils seront. Et le FDP, il sera. Hein? C'est quelque chose qui est à peu près sûr. Alors, le ministère des Finances, c'est Christian Lindner, la tête des libéraux, qui l'a revendiqué. Est-ce qu'il l'aura? Mais c'est possible. Et traditionnellement, dans le gouvernement de coalition allemand, le deuxième partenaire détient le ministère des Affaires étrangères. On se souvient du gouvernement vert sociodémocrate. Fischer était le ministre des Affaires étrangères. Et si les Verts auront à nouveau ce ministère, nous allons vers une autre politique étrangère.
En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément le parti qui arrive en tête, non, qui se retrouve au pouvoir. On l'a déjà vu dans l'histoire, vous êtes historien.
Oui, oui, tout à fait. L'Allemagne est le pays par excellence depuis la République de Weimar, des gouvernements de coalition où il faut composer des majorités, parfois difficilement, parfois durement. Heureusement, pendant longtemps, pendant l'histoire de la République fédérale, c'était des coalitions stables. Et là, on craint pas mal pour le système politique quand même que ce passé est désormais révolu.
Arnstetter, est-ce qu'on sait pourquoi le SPD revient en grâce? Est-ce que c'est l'effet Covid?
Non, c'est pas l'effet Covid, c'est l'effet d'une stratégie bien développée, unité au sein du parti, premièrement, deuxièmement, un bon programme, troisièmement, un candidat qui n'est pas critiqué par tout le monde au sein du parti. Donc, c'est ça un peu qui a fait avancer, mais aussi la faiblesse de l'autre, la faiblesse d'Armin Laschet, qui n'a pas pu faire une campagne qui était une campagne apte, ce que la CDU voulait ou les chrétiens démocrates voulaient. Donc c'est le deux facteurs.
Daniela Schwarzer, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, à presque 20 heures, de qui pourrait succéder à Angela Merkel?
C'est très très incertain. On sait qu'il y a ou Armin Laschet, le chrétien démocrate, ou Olaf Scholz, qui en ce moment a une petite avance de même pas un point de pourcentage avec son parti, le SPD. Donc ça peut changer. Maintenant, c'est le moment où les votes par correspondance sont comptés. Et on saura peut-être, je sais pas, à minuit ou même plus tard. La dernière fois, en 2017, le résultat final était annoncé à 5h30 du matin. Et c'était quand même des élections beaucoup plus prévisibles que cette fois-ci.
En tout cas, en attendant de savoir ce qui se passe, ce qui est certain, c'est qu'Angela Merkel reste aux commandes tant qu'il n'y a pas de coalition qui est trouvée en Allemagne. Alors qu'on s'interroge sur la composition du prochain gouvernement, les négociations vont donc commencer. Et en 2017, vous l'avez dit, elles avaient duré des mois. Carrefour de l'Europe se termine, mais la soirée électorale continue sur RFI après le journal de 20h avec Arnaud Pontus. Pour notre part, un grand merci à l'Institut français de Berlin de nous avoir accueillis. Des merci bien sûr à nos trois invités, à Pascal Thibault, notre correspondant à la rédaction en chef de Jean-Baptiste Le Tondeur, et à la réalisation Yann Eligouin et Bertrand Éclair. Très bonne soirée à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, le journal et la suite de cette spéciale élection allemande à Berlin avec Arnaud Pontus.